amis auditeurs auditrices à l'écoute de Radio Saint-Louis, soyez les bienvenus. Nous nous retrouvons avec notre archevêque, Mgr David Macaire, pour le mot de l'évêque.
Bonjour Mgr David.
Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs auditrices de Radio Saint-Louis, à toute la Martinique d'ailleurs, bonjour et bénédiction.
Nous sommes heureux de vous retrouver après votre semaine de retraite de prédication en Allemagne, dans un pays qui est un peu, en difficulté avec ses agriculteurs.
Alors,
vous les avez rencontrés.
C'est la première fois que j'allais en Allemagne, mais alors oui. Évidemment c'est grand l'Allemagne, c'est plus grand que la France d'ailleurs. Oui. Donc il y a plusieurs pays différents. Tout dans le sud, j'étais allé près de Lindau, c'est près d'un lac où on voit la Suisse en face, enfin etc. On est plus de sud que Lyon. Là où j'étais.
Oui.
Donc,
oui.
Voyez, donc, c'est un grand, grand pays, l'Allemagne, quand même. Et c'est un pays assez beau, un peu comme la Suisse. Hein. Les montagnes n'étaient pas loin, avec de grands pâturages, sauf que d'habitude, ils sont complètement enneigés. Ils ont parfois 50 cm, 1 mètre de neige. Là, il n'y avait pas de neige du tout. C'était le printemps, quasiment. C'est le réchauffement climatique, peut-être, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai pu me promener dans des champs complètement dégagés. Par contre, il n'y avait pas les vaches étaient à l'intérieur.
Voilà
donc, il y avait du lait, du bon chocolat et surtout une centaine de séminaristes d'une communauté qui est peu connue, qui s'appelle la Fraternité Saint-Pierre. Ce sont des prêtres qui ont quitté, enfin une dizaine de prêtres, qui ont quitté le schisme de Mgr Lefebvre en 88. Ils n'ont pas voulu, ils sont restés fidèles à l'Église et ils ont été confirmés dans leur mission. Alors, ils disent la messe de rite extraordinaire, en latin, l'ancien rite, mais ils ont été confirmés dans leur mission, d'abord par Jean-Paul II en 88, puis par Benoît XVI, et très récemment, il y a un an, par le pape François, qui les a encore une fois confirmés dans leur mission. Donc, voilà. Mais par contre, j'étais impressionné du nombre de jeunes. Ils ont un séminaire qu'ils ont prévu grand, ils ont prévu pour 80 places et ils sont obligés de louer 20 places à côté dans une maison diocésaine et ils sont obligés de mettre les séminaristes de première année à deux par chambre, dans des lits superposés quoi. Donc, parce que c'est... Voilà,
le Seigneur appelle alors beaucoup de jeunes.
Eh bien oui, voilà, des jeunes et qui ne sont pas forcément issus de milieux tradis, qui sont aussi ouverts, aussi gentils, aussi que tous les autres. Mais enfin bon, c'est un peu impressionnant. C'est la première fois que je rencontrais... enfin, pas ce milieu, parce que j'étais invité dans plusieurs communautés en France qui ont à peu près le même profil, d'ailleurs, sociologique. J'étais appelé dans plusieurs communautés pour prêcher la retraite. Donc je prêche la même retraite qu'ailleurs et je ne change rien à ce que je dis, à mes principes, voilà. Mais donc j'estime que si c'est un signe d'ouverture aussi pour eux,
bien sûr,
de m'inviter, donc j'y vais volontiers. J'ai même dû présider une messe d'ordination de sous-diaconat qui n'existe plus dans le rite ordinaire, mais qui existe encore dans le rite extraordinaire. On va dire l'institution au ministère, c'est un peu la même chose, c'est à peu près le même rite d'ailleurs.
Oui.
Et donc on a remis à ces hommes, à cinq jeunes, voilà, les insignes. Et puis voilà, donc ça m'a un petit peu impressionné parce que c'est pas ma façon de célébrer. Mais c'était pas inintéressant, loin de là. J'étais assez édifié et puis heureux de retrouver le même esprit dans l'Église. On se fait des montagnes, on met des étiquettes sur les gens. Faut qu'on arrête avec ça. Hein,
parce Nous sommes tous disciples
oh
de Christ.
Oh là là, oui, oui. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est à ma présence, mais je trouve chez ces gens-là le même esprit que de respect, d'amour. Il y avait les photos du pape François sont partout. Ils ont un grand respect pour les évêques, pour l'évêque, ce qui fait l'Église d'ailleurs. C'est le respect à l'évêque. C'est la personne de l'évêque est relative. Hein. Moi, c'est pas le succès de l'évêque qui compte.
Oui.
C'est dans l'Église. Être catholique, c'est respecter, c'est suivre. Mais il y en a qui ont pas, qui savent pas ça. Alors malheureusement, dans les milieux tradis, visiblement, ils le savent. Hein, ça. Alors là, enfin, dans ces milieux-là, moi, je suis impressionné de voir le respect qu'il y a justement, d'autant plus qu'ils sont soupçonnés par ailleurs à cause de la messe et de la liturgie de ne pas l'être. Ils sont extrêmement respectueux du Saint-Père, des directives, des évêques, etc., du magistère de l'Église. Cela est constitutif de l'Église. Je regrette que dans d'autres milieux, on est tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train d'abaisser, etc. Les vrais chrétiens catholiques n'osent pas un instant critiquer le Saint-Père, parce que c'est quand même un manque de foi. C'est une vision politique de l'Église, quand on critique le pape ou les évêques. Et cette vision politique, elle est celle du diable, en fait. comme si... ça ne veut pas dire non plus que l'Église est assez sage. Pierre, on savait très bien qu'il était un pécheur, que, voilà, et que c'est vrai, des 267 papes qui ont suivi. Mais l'obéissance à son ministère n'est pas quelque chose qui est relatif dans la Sainte Église catholique. C'est comme ça qu'on a créé des protestants ou d'autres lorsqu'on a commencé à critiquer. Or là, je vois certains milieux qui se disent plus catholiques que les catholiques, plus papistes que le pape, plus etc. et qui passent leur temps à critiquer. Et ça, c'est l'esprit de mai 68, en fait. C'est un esprit extrêmement gauchisant qui est dans l'Église, qui est insupportable. Surtout des gens qui se croient très, très, très catholiques. Et d'autres, au contraire, qui relativisent. Alors, le pape a dit ça, l'évêque a dit ça. Bon, il dit ce qu'il veut, moi, je fais ce que je veux. Là aussi, c'est vraiment la racine diabolique, satanique dans l'Église. Enfin bon, maintenant, je le dis peut-être parce que je suis évêque. Non, mais parce que chez ces frères-là, qu'on soupçonne alors par ailleurs d'être des... Non, pas du tout, l'obéissance, la préoccupation d'être fidèle à l'Église est permanente. Et permanente.
Monseigneur, c'était donc un bon temps de retraite pour vous là-bas, dans un contexte un peu différent. Et
comme
donc,
d'habitude, voilà, c'est ça.
Et vous êtes revenu, vous êtes rentré dès le dimanche.
Oui, dès le dimanche, ça fait partie de mon ministère.
Ouais.
Alors, tous les évêques n'ont pas ce ministère de prédication, mais d'autres ont d'autres. Il y a des choses auxquelles je participe rarement, ce sont les grandes réunions d'évêques. J'y vais deux fois par an. Par exemple, là, je vais partir bientôt à Nassau, aux Bahamas, pour les évêques de la Caraïbe.
Ah oui.
Par contre, je ne vais pas à la réunion en mars, à la réunion des évêques de France, parce que je... Bon, c'est pas pour l'instant ma présence... Lorsque ma présence est requise, comme membre du conseil permanent des évêques de la Caraïbe, bon, j'y vais. Il faut aller à Trinidad ou des choses comme ça. Par contre, prêcher des retraites, c'est-à-dire vivre le ministère épiscopal, ce qu'on appelle le ministère de communion, hein, dans l'église de Martinique, bien sûr, mais dans l'église universelle, c'est aussi le rôle de l'évêque. Donc c'est aussi mon rôle d'aller prêcher. Cette année, j'ai prêché en Guyane, deux sessions, j'ai prêché à Barbade, en fait c'est à Trinidad, etc., à Barbade et Trinidad, en Allemagne, là, bientôt je vais prêcher à Marseille. Ça fait partie de mon ministère, puis de témoigner aussi de ce qui se vit dans l'église du Christ qui est en Martinique.
Bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
Donc ça fait, c'est pas les vacances, quoi. Voilà,
non.
C'est pas des vacances. Non, mais je n'ai pas de complexe par rapport à ça, j'assume tout à fait mon ministère, mais c'est pas des vacances, et en même temps c'est extrêmement enrichissant pour notre église, pour moi-même, bien sûr, et puis pour ces frères et sœurs que j'ai la joie de rencontrer.
Et donc, dès votre retour, vous avez repris vos activités avec les vêpres solennelles et puis une messe à vie et partage, et surtout l'entrée en carême le mercredi décembre, conformément à votre nouvelle directive. Dans beaucoup de paroisses, ça s'est vécu, ici aussi à Emmaüs. Et vous étiez à Boubois, comme chaque année, à 9h30, pour le mercredi décembre.
Mais
avec les
sœurs. Pendant les jours gras, je prends un temps de repos, avant le carême aussi, bon, qui est toujours trop court, parce que j'ai quand même un conseil épiscopal le lundi matin.
Oui.
J'oblige les pauvres conseillers, en tout cas le vicaire général, le vicaire épiscopal, à être là aussi pour qu'on puisse, avant le carême quand même, avoir un conseil, même si on en a tout au long de l'année, parce qu'il y a toujours des choses à voir, des détails, etc. Bon. Donc nous avions ça, donc c'est vraiment une journée et demie avant d'entrer dans le mercredi décembre. Donc je remercie les sœurs de Boubois de m'accueillir chaque année. Nous faisons une petite fête le mardi soir avec des crêpes et tout. C'est très agréable. C'est un moment. C'est toujours aussi délicieux d'être au monastère, dans cette communauté qui a l'air en bonne forme. J'espère qu'elles auront des novices et des vocations, parce que c'est vraiment le moment le moment d'y rentrer. Il y a un état de grâce, de joie, de chant, de vie monastique paisible.
Il y a de nouvelles vocations, monseigneur.
Oui, il y a de nouvelles sœurs, dont une sœur, deux sœurs françaises et une sœur africaine qui sont là, donc c'est agréable. Et puis, il y a toujours le petit voile blanc qui traîne par là, mais il en faudrait 3, 4, même 5, 6, allez, 10, puisque au demande voilà. Au Seigneur, non, on ne va pas être 6.
Vous savez que samedi prochain, dans le cadre du regard spirituel de Madiana, vous aviez assisté, vous, à sacerdoce pour le premier samedi. Là, c'est une sœur bénédicte qui va rentrer, qui s'engage comme moniale dans un couvent bénédictin, et c'est un film qui est proposé à tous ceux qui réfléchissent à la vocation.
Ah, bienvenue.
À 9h30 à Madiana, samedi 24. 24 février.
D'accord, qui est organisé par
Regard Spirituel, et nous retransmettons, nous donnons l'invitation régulièrement. Un samedi par mois, c'est Madiana qui offre un film comme ça pour la réflexion religieuse ou spirituelle.
Oh ben très bien, c'est bon à savoir, faut le faire passer. J'espère que la pastorale des jeunes va réagir, la pastorale des vocations bien entendu. D'ailleurs le père, en parlant de ça, le père Sosten
appelle à une journée le vendredi 23.
C'est une journée, c'est une soirée.
18-20 heures, oui.
Oui, c'est surtout 16-18 ans.
Voilà, et c'est 16-18 au Lamentin, la sainte paroissiale du Lamentin.
Et les garçons, voilà, c'est ça, au Lamentin. Donc pour les garçons de 16 à 18 ans, alors il faut appeler ces garçons, il faut les appeler. C'est pas simplement de faire passer une annonce à la messe, ça sert à rien. Il faut les appeler personnellement et qu'ils se posent la question sur leur vie de chrétien, etc. Voilà, voilà. Donc je rappelle, c'est le vendredi combien ?
Vendredi 23 février.
Voilà, à 18 heures. Voilà, à la salle paroissiale du Lamentin, pour les garçons de 16 à 18 ans.
Voilà, et pour s'inscrire, c'est très facile. Il suffit de s'inscrire par SMS ou WhatsApp au 06 96 26 91 97. Voilà, chers amis, auditeurs et auditrices. Monseigneur, après cette entrée en carême, alors vous avez d'ailleurs été au Millénium,
j'ai eu trois messes descendre.
Trois messes.
Trois salles, trois ambiances différentes. J'avais fait trois homélies différentes, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc trois homélies différentes, notamment au Lamentin, où j'ai résumé les trois, sur ce subtil attachement au mal que nous avons. Parce qu'il ne suffit pas de jeûner, de prier, de partager les trois pratiques du carême. Il ne suffit pas de savoir où est le mal. Parfois on le sait, mais on a un subtil attachement au mal, qui est plus profond, qui est dans notre être, qui est dans nos blessures, dans notre mémoire profonde, dans notre psychologie ou notre inconscient, j'en sais rien. Oui, dans notre inconscient, le péché originel fait partie de la zone d'ombre profonde et mystérieuse de notre subconscient, de ce que les psychologues appellent le subconscient, donc quelque chose qui n'est pas toujours. Donc parfois on est conscient, on sait où est le mal et pourtant on le fait. Et il ne suffit pas de condamner ceux qui font le mal ou de se condamner ou s'accuser soi-même, mais il faut encore leur offrir le chemin de guérison par la grâce. Et donc il y a une dimension surnaturelle. Une dimension, il faut que notre carême ait une dimension surnaturelle. C'est pas simplement un temps d'effort. J'ai presque envie de dire, ça sert à rien, c'est même dangereux. Prenez quelqu'un qui aurait jeûné tout le carême pendant 40 jours et qui arrive à Pâques en étant fier de lui. Légitimement, cette personne serait fière d'avoir jeûné, etc. Mais en même temps, si c'est juste par ses propres forces, comme l'ancienne alliance, on a tué des bêtes par milliers dans le temple, mais ça n'a sauvé personne. C'est par le sang du Christ, c'est par ces blessures que nous sommes sauvés. Et donc, ces jeûnes, ces privations, ce combat spirituel que nous entreprenons, il doit être, j'ai envie de dire, juste une porte ouverte à la grâce divine. Juste une manifestation que je suis d'accord pour vivre de la grâce. Et non pas une sorte de monnaie d'échange avec la grâce de Dieu en disant, regarde Seigneur, moi j'ai fait tout ça, tu me donnes ta grâce. Et encore moins, le fait de dire, j'ai fait tout ça, ça va me sauver. Merci Seigneur, mais j'ai pas besoin de toi, puisque je me suis sauvé tout seul. Donc c'est certainement pas cela. Donc le vrai carême est un carême qui échoue, qui est en échec. Un carême où à la fin on se dit, je suis pas grand chose. Et en même temps, un carême où on crie vers Dieu comme un pauvre cri et Dieu entend. Voilà.
C'est ça.
Donc j'étais heureux de partager. Moi j'étais impressionné que les fidèles soient toujours fidèles, notamment des jeunes. Ces temps de prière, il y a des jeunes qui sont vraiment intéressés à venir prier, recevoir les cendres. Alors, on ne va pas critiquer le carnaval, je me suis promis de ne pas... D'abord, je n'ai jamais vraiment fait, sinon de m'affoler du côté vulgaire et violent du carnaval, pour ne pas dire obscène.
Ouais, c'est le côté transgressif.
Ça a toujours existé, mais quand c'est général...
Exacerbé maintenant.
Exacerbé, quand ce n'est que ça, quand c'est un prétexte, on détourne un événement populaire et culturel pour l'expression d'une débauche, c'est pas bien. C'est pas bien.
Il y avait cette année, Monseigneur, une recherche vestimentaire. Certains groupes ont repris cette tradition, c'est magnifique.
C'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Il faut saluer aussi le fait que, et c'est peut-être une bonne nouvelle même et pour les chrétiens, pour les familles chrétiennes qui ont envie de vivre aussi un petit carnaval avec leurs enfants. Tout le monde n'est pas en session, tout le monde, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Certains ont envie de vivre cela, et je pense au carnaval à Saint-Pierre en particulier, où il y avait de très belles choses. Alors, je ne l'ai pas vu par moi-même, je vous avoue, j'étais en retraite. Mais on m'a dit, un ami prêtre de passage qui est allé faire une marche, a dû traverser le carnaval parce qu'il était allé faire le tour de la montagne Pelée, donc il est redescendu, il m'a dit c'était très beau, c'était vraiment bon enfant comme tout, etc. Et je rends grâce profondément à Dieu pour cela, parce que c'est vrai que on avait l'impression que Satan avait exclusivement mis sa main sur cette affaire, avec des gens qui ne pensaient, ne parlaient, ne vivaient, ne s'habillaient que pour un sexe. Et encore, le sexe, ça peut être une très belle chose si c'est en Dieu, mais quand c'est une débauche et une prise de possession de l'autre, voilà.
Mais saluant quand même un peu cette volonté de renouveler la tradition.
Félicite les groupes qui ont fait plus qu'un effort, qui ont eu cette joie, parce que c'est une joie. Parce que je pense que l'autre carnaval, celui qu'on a critiqué, je veux dire, est une expression de la tristesse. Oui. Une expression de la tristesse. Une expression de la... c'est sad. C'est ça. Voilà.
Alors que la vraie joie, elle est libératrice, en fait.
Elle est libératrice. Ouais. Donc on sent qu'il y a une joie à un petit peu... Voilà, c'est celle qu'on a connue et qui est bon enfant, qui est une bonne chose, bien sûr. Voilà.
Monseigneur, donc Millennium et puis Palais des Sports, il y avait plus de 2700 personnes au Palais des Sports du Lamentin, comme d'habitude. Vraiment une belle manifestation aussi.
Et notons,
aussi.
Michel, alors notons quelque chose, si vous me permettez.
Oui.
C'est que cette année, nous avons demandé qu'il n'y ait pas d'invités extérieurs.
Voilà, c'est les prêtres diocésains.
Prêtres ou pas, d'ailleurs, des laïcs qui ont enseigné. Oui. Voilà, ce sont. Et j'étais content, Monde Rouge, d'inviter le diacre Christophe ou Tony à la Guissachi, etc.
Enfin, Michel Anjamard. Faustin.
Bruno Faustin, bien entendu. J'ai pas la liste de tout le monde, mais nous avons ici des frères et sœurs ministres qui sont en mesure d'enseigner, de donner un enseignement. Moi, j'en ai un petit peu assez d'entendre des frères et sœurs qui viennent d'ailleurs. Je suis très heureux, c'est même moi qui les ai invités et puis qui donne les autorisations. Mais qui viennent nous donner des enseignements. Et tout le monde est content, nous sommes heureux, mais des enseignements qu'on a entendus 10 fois lorsqu'on nous dit de ne pas dire du mal aux autres, de ne pas voler. Quand même, on est plus adultes que ça, on le sait tout ça, même si on ne le vit pas, justement. Donc il est temps qu'on arrête de venir nous le dire et que nous-mêmes nous le disions pour que ça nous oblige à le faire, que nous nous aimions les uns les autres. Et je suis content lorsque les groupes invitent des gens qui ne sont pas forcément de leur communauté à venir prêcher pour eux. On peut faire venir un frère d'Afrique, etc. Ah, très bien, bien sûr, on va recommencer à le faire. Mais entre nous. Et ça s'est visiblement bien et
tout
même
à fait.
Très bien passé. Tout et donc là, il y a une... Et ça veut dire que ça me met en confiance sur la maturité de notre Église. Parce que il ne s'agit pas, là encore, je vous rappelais que l'on m'invite pour prêcher des retraites un peu partout dans le monde. Eh bien, je pense que je ne suis pas le seul Martiniquais. C'est quelque chose que j'avais dit au père Rancé quand il était, entre guillemets, le père Rancé, il y a quelque temps. Je lui ai dit, écoute, moi je veux qu'on t'invite, va prêcher ailleurs. Va prêcher en Guyane, va prêcher en France, va prêcher. On t'invite, tu y vas. Tu vas prêcher. L'Église a toujours été catholique, c'est-à-dire universelle. On n'est pas là pour regarder son nombril seulement. Par contre, c'est dans notre terre, chez nous, que nous recevons les grâces de l'Esprit pour pouvoir aller annoncer l'Évangile. Et là, aujourd'hui, j'ai confiance qu'on peut dire à nos frères et sœurs, qui, d'ailleurs, je vais les rassembler un jour pour prier, pour les bénir, qui ont enseigné, là, pendant cette année en particulier, j'ai confiance qu'on puisse leur dire aujourd'hui, mais très bien, mes frères et sœurs, maintenant, vous êtes prêts pour que je dise oui, que si vous allez prêcher en Guyane, en Guadeloupe, en France, en Afrique, dans les pays francophones, ou si vous savez parler une autre langue, ben allez-y, ou au Canada. Vous voyez, c'est les Canadiens qui doivent venir chez nous pour prier. Alors c'est bien qu'on aille chez eux aussi. C'est ça, c'est l'Église catholique, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais attention à, comment on appelle ça, notre balance commerciale spirituelle.
Ça,
si on n'est qu'en train d'importer, c'est que nous avons un problème, que l'Esprit Saint ne nous est pas donné.
Il faut exporter aussi.
Je suis extrêmement fier que nos prêtres en particulier, on a des prêtres de grande qualité, des grands prédicateurs. parmi nous, et il est bon, il est beau qu'il soit, qu'on n'envoie pas ce message d'ailleurs négatif à nos jeunes. Si tu veux avoir exprimé ton charisme jusqu'au bout dans le monde, il faut que tu quittes la Martinique, parce que si tu restes en Martinique, non seulement on ne te reconnaîtra pas, mais on va te flinguer lorsque tu exprimes tes talents, tes charismes. Donc si tu veux vraiment avoir de la force, il faut partir, comme ça quand tu reviendras, c'est faux. Il faut qu'ici, nous ayons comme principal objectif, que nous sachions et que nous le fassions progresser, développer nos charismes, les charismes de nos jeunes, de nos anciens, et qu'ici, ils portent fruit sans qu'on ait, ils aient peur de se faire critiquer, mal parler, etc., à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose. Voilà.
Il en est de même d'ailleurs dans la vie civile et dans la vie économique et sociale. Chacun peut réussir.
Donc
ici.
Je félicite le père Gilles Laïzo, mon vicaire épiscopal, d'avoir mis ça en place et les groupes d'avoir accepté, consenti à jouer le jeu. Risqué, on a toujours peur, notre gros complexe antillais, on a l'impression que quand ça vient d'un Canadien, d'un Français ou d'un Africain, que c'est plus Paola, maman, oui, c'est pas faux, parce que c'est ce qui m'arrive quand je vais prêcher ailleurs, dire oui, il vient de la Martinique, il dit ce discours, etc., avec la force aussi de la foi, du témoignage de foi des Antilles, quand je vais prêcher en Allemagne ou ailleurs, mais... je crois que chez nous-mêmes, eh bien, il faut qu'on puisse avoir la possibilité d'offrir cette même force de l'Esprit-Saint entre nous.
Monseigneur,
ce qui n'est pas une fermeture, au contraire. C'est le début d'une ouverture aussi dans l'autre sens.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et savoir profiter de
nos propres richesses,
interne.
Nos propres talents.
Voilà. Monseigneur, ensuite, le jeudi 15 février, vous avez repris enfin vos cours de théologie de la spiritualité. Et puis, ça sera jusqu'au mois de juin, le jeudi soir, de 18h à 20h à Bellevue, avec des gens qui ont envie de se former, d'approfondir un peu leur chemin de foi.
Alors, j'étais impressionné, parce que l'année dernière, on avait commencé la première année avec une centaine d'étudiants. Et
oui, c'était déjà beaucoup.
Oui. Et puis, je me suis dit, ça fait 4 fois que je donne ce cours, quand même, parce que c'est un cycle sur 2 ans. Donc là, c'est la
deuxième session sur 2 ans.
C'est la deuxième session, mais ça fait 4 fois, donc ça fait maintenant 8 ans. Donc je me suis dit, c'est bon, il n'y aura pas grand monde. Toute l'année dernière, il y avait une trentaine, une quarantaine d'étudiants. Donc je dis, cette année, une vingtaine. Eh bien non, ils sont 90, les pauvres, parce que ça a commencé un peu sur les chapeaux de rouge. Je m'excuse un petit peu.
Vous les bousculez.
Oui, alors c'est la théologie, on entre dans un autre monde, c'est pas un petit enseignement, mais en même temps c'est pas un enseignement, c'est autre chose, ça fait appel à d'autres réalités, là c'est vraiment une façon de sanctifier notre intelligence, donc il faut mettre notre intelligence en route et comprendre qu'elle a besoin d'être sanctifiée, voilà, ça nous sert à rien de connaître le dernier mari de Kim Kardashian, par contre de savoir comment Dieu agit dans notre vie, ça nourrit notre âme, vous voyez. Oh, nous sommes au courant de toutes les futilités, parfois l'actualité pendant 10 jours nous parle de la même chose comme si c'est un événement planétaire, mondial et essentiel, par contre les choses de Dieu non. Donc je félicite ces étudiants et les étudiantes qui sont venus pour laisser Dieu parler en eux.
Voilà, ça c'était donc le jeudi 15 février, et puis vendredi 16, vous avez pu avoir votre visite à l'hôpital, et avec l'aumônerie des hôpitaux, la messe pour les malades.
Oui, mieux que ça. Alors, d'abord, je dois féliciter l'équipe de l'aumônerie PZQ, Pierre Zodapli-Gitman, l'hôpital, le CHUM, notamment son aumônier, monsieur l'abbé Beaufour,
le père Robert-Marie. Oui.
Voilà, et une équipe motivée, nous avons fait le tour, nous avons vu des patients. Alors je dois aussi souligner, je l'ai promis de le faire, j'ai vu certains services avec des médecins jeunes médecins martiniquais, motivés, joyeux. Notamment, il y a un service de gériatrie, donc c'était des jeunes, ils n'avaient pas 30 ans, enfin peut-être un petit peu plus, la trentaine, tous, on va dire. 5-6 médecins avec des kinés, avec des infirmiers, enfin, au service de nos anciens qui sont en train de. Voilà, qui sont dans des services de gériatrie, donc c'est pas ce qu'il y a de plus heureux. Et j'étais bouleversé par cette visite, le service de neurologie aussi, enfin, le service de... Alors j'oublie le nom, mais on s'occupe des gens qui ont reçu des balles, des machins, etc. Enfin voilà, c'était... Waouh, c'était assez beau. Puis bien sûr, des patients que j'ai eu l'occasion de visiter, qui étaient très heureux de voir l'évêque, le prêtre. Il y avait le diacre Emmanuel aussi qui nous accompagnait, Emmanuel Boulanger. Et puis ensuite, une messe absolument... une vraie messe. On était, vous savez, les salles polyvalentes dans les hôpitaux, c'est toujours dans le fin fond. Alors on arrive dans le fin fond, et puis on trouve une salle avec plein de frères et sœurs dans la joie. Il y avait, comme m'a dit l'aumônier après, l'Esprit Saint, Dieu était présent, c'est sûr. Enfin, il est toujours présent à la messe, mais là... il y avait des témoignages, voilà. Certains hommes présents avaient lu le livre que j'ai écrit sur la lettre d'encouragement aux hommes. Oui. Certains ont témoigné, c'est assez beau, de ce qu'ils ont vécu à travers certains passages du livre, d'autres, enfin, plus de témoignages de malades, d'accompagnants, et puis la messe, tout simple, avec les cendres. Eh bien, voilà, vraiment, c'est la vraie vie de l'Église, celle qu'on ne voit pas. À l'extérieur, celle qu'on ne comprend pas, mais celle où des fidèles sont remplis de Dieu, où Dieu vient rejoindre son peuple à travers la vie toute simple de son Église, à travers des hommes bien pécheurs, bien pauvres, mais choisis quand même par Dieu pour susciter sa présence dans son peuple. C'est incroyable, incroyable. C'était très beau.
Et cette vie de l'équipe de l'aumônerie de l'hôpital et des hôpitaux, hein, c'est très important puisqu'il y a beaucoup de gens qui maintenant font l'épreuve de la maladie, malheureusement.
Et puis il y a les familles, et puis il y a les soignants.
C'est ça, oui. Les soignants aussi sont parfois abandonnés.
Mais il ne faut pas oublier que c'est des soignants, c'était d'anciennes bonnes sœurs. Voilà, hein, donc là, maintenant, ce n'est plus des bonnes sœurs. Certes, mais elles ont besoin, il et elles ont besoin de spiritualité, d'avoir de donner du sens. Ils s'occupent de l'humain.
C'est ça.
Oui, ils s'occupent de l'humain, ils connaissent la mécanique de l'humain. À un moment donné, on a ouvert une salle pour une salle de réunion. Il y avait un cours, ils diffusaient des images d'une chirurgie. Bon, ben, ouais, j'ai aperçu ça de loin. Bon, on connaît tous maintenant avec certaines séries de télé, tout ça. Ils montrent les opérations. On voit la chair, le corps, enfin, je sais pas comment dire, les organes humains, les viscères, etc. Bon. On peut avoir une idée de l'homme, et puis après, toutes les difficultés, de vétusté parfois, pas partout, mais enfin, de relationnel, de manque de personnel. Bon, les attaques. Moi, j'étais très touché de voir dans les couloirs d'un service, voilà, nous vous signalons que toute agression verbale envers le personnel est passible de poursuite. Je dis, mais quoi, c'est mon oncle aller à l'hôpital pour crier derrière un médecin, pour crier derrière un infirmier, un mario, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien oui, ben voilà. Et même, j'ai appris que les médecins traitants aussi, alors avant, on respectait le médecin.
Donc bientôt, ils peuvent être agressés, malheureusement.
Bientôt, on va crier derrière le prêtre, et j'ai appris que les médecins traitants aussi. Moi, je connais un cas de médecin qui va pas rester là où il est, parce que les gens sont mal élevés.
C'est ça,
ils sont mais violents.
C'est ça,
donc, à un bon moment, tu crains pour ta vie. Déjà, tu te donnes à fond, tu n'as quasiment pas de vie de famille. Bon, ben, ils peuvent faire des erreurs aussi, les médecins. Hein, ils ne sont pas des petits saints. Mais en même temps, ils sont. Ben, non, on respecte les gens comme on respecte l'instituteur de ses enfants et monsieur
tout
le curé.
Parce que c'est un peu généralisé, ah, oui. Malheureusement, cette violence. Non,
on est vraiment
verbale.
Dans l'esprit de. Ouais. On est dans l'esprit de mai 68. Vous voyez,
c'est
des enfants gâtés.
Oui, mais c'est ça, mais il y avait quand même un bon enfant aussi. Moi, j'ai connu 68. Vous l'avez
pardon,
pas connu, monseigneur.
Pardon, Michel, je suis désolé.
Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose, malheureusement.
Non,
c'est...
mais je veux dire, c'est le fruit lointain.
Oui, tout... non,
je suis
d'accord.
C'est le fruit lointain.
Oui,
c'est tout certainement fait. Pas. Je pense qu'en mai 68, j'y étais pas, parce que je suis né en 69.
Voilà.
Il devait respecter deux fois plus. Il devait respecter les choses. Et les... Même s'il y avait certainement quelque chose, un ballon de baudruche, il fallait mettre l'aiguille pour le faire sauter. Peut-être qu'il y avait trop d'autorité.
Il y avait trop
dans
l'autoritarisme. Voilà.
Moi, j'y étais pas. Je peux pas juger les époques. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le fruit de tout cela...
Oui, c'est une dérive.
C'est une dérive, un cancer pour la société, pour l'Église aussi. Je c'est le signalais, vrai. Moi je suis affolé quand je reçois, je reviens dessus, Michel, des textos, de certaines personnes qui se croient vraiment chrétiennes, et elles se croient même plus chrétiennes que tout le monde, que le pape, que tout le monde, mais qui sont, enfin catholiques, mais qui vont être complètement... de ce point de vue-là, dans la critique, dans le jugement, dans l'orgueil, en fait. Et ça m'informe, parce qu'il me dit, mais si on le leur dit, ils diront donc que c'est pas vrai, si, etc. Et pourtant, c'est la vérité. Et il y a une conversion à la clé qui est terrible.
C'est vrai, c'est vrai. Il faut que chacun réfléchisse un peu à sa propre vie et aux dimensions variables qu'il peut leur lui donner. Alors, Monseigneur, nous en arrivons à ce que vous venez de quitter, que vous allez retrouver bientôt. Ce week-end des fiancés, comme chaque année, pour vous, c'est un temps fort parce que vous avez là presque 600 personnes, me disait Muriel, que nous avions tout à l'heure avec les responsables de Guyane et de Guadeloupe. C'est quand même extraordinaire.
Ben, c'est toujours émouvant, ça c'est sûr. Chaque année, moi je suis dans une grande émotion de voir cette assemblée d'hommes et de femmes qui sont prêts à, parfois après plusieurs années de vie commune,
tout à fait.
Mais prêts à faire un grand saut dans la foi, un grand saut dans la charité. Alors, il faut leur expliquer que c'est un grand saut aussi, parce que parfois on se marie pour mille et une raisons qui ne sont pas les bonnes. Donc ce matin, ça commence toujours par les mauvaises raisons de se marier. Enfin, qui en fait ne sont, qui sont les raisons insuffisantes. Ce n'est pas mauvaise, mais elles sont insuffisantes. Il ne faut pas non plus... voilà, toutes ces raisons lesquelles on ne se marie pas pour régulariser une situation, par exemple. Ça ne se fait pas. Et je sais que nos prêtres, nos responsables de catéchumènes, parfois disent « Ah non, non, il faut vous marier pour régulariser la situation. » Moi, j'ai un filleul comme ça qui s'est marié, il a fini par divorcer parce qu'il ne fallait pas qu'il se marie. Mais il voulait absolument recevoir la communion, il fallait qu'il se marie, il fallait tout ça. On fait toute une histoire là-dessus qui n'a pas lieu d'être. Le pape est contre. Moi, j'ai déjà dit mille fois que non. Bon, si les personnes vivent dans une situation qui n'est pas une situation normale du point de vue de la vie matrimoniale, ben, ils reçoivent les sacrements et tout. Et peut-être que le sacrement va leur donner la force. Enfin, pas peut-être. Est-ce qu'on a la foi dans les sacrements ou bien est-ce que le sacrement est une récompense? Et donc, il y a ce chemin que nous devons prendre en Église. Donc, je vois que ces personnes qui sont prêtes à se marier, c'est courageux aujourd'hui. Moi, je les respecte et vraiment, j'ai de l'admiration pour eux. C'est bien de se marier. C'est pas moi qui vais dire le contraire, au contraire. Bien entendu. Mais par contre, je ne veux pas qu'ils se marient à tout prix. Hein, parce que je veux qu'ils se marient si Dieu les appelle à cela, vous voyez. C'est comme pour les prêtres. Si quelqu'un vient, il veut être prêtre, c'est parce qu'il dit qu'il veut que Dieu le veut. Hein. Il y a des discernements. Hein, si cette personne n'est pas en capacité à trop de blessures ou je ne sais pas quoi, ben non. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous parfaits les prêtres, bien loin de là. Mais ça veut dire que c'est du sérieux les sacrements. Et donc ça ne me déplaît pas, c'est comme ça. Je préfère qu'ils aient tous 20 ans et qu'ils vivent dans la chasteté et qu'ils soient prêts et bien formés par des familles cathos, des écoles cathos, des mouvements cathos à la théologie du mariage et qu'ils arrivent. Moi j'en ai connu, j'en ai fiancé à 17 ans, hein, ou 20 ans, enfin voilà, pour le 17 ans pour l'un d'eux, voilà, vraiment avec la bénédiction, ils savent qu'ils vont faire leur vie parce qu'ils ont construit leur vie comme ça, leur famille, leurs parents sont comme ça, c'est une tradition dans la famille, mais c'est vécu aussi de façon profonde. Chez nous, non, on a brisé le mariage pour beaucoup, même nos dames cathées annoncent, bah, les pauvres, je les aime tellement si elles savaient, mais annoncent parfois le mariage comme une sorte d'obligation parce que ça fait bien, faut plus vivre dans le péché. C'est pas pour ça qu'on se marie, on se marie parce qu'on est appelé par Dieu à se marier. Donc mieux vaut ne pas se marier si c'est pour faire un mariage qui n'est pas à la gloire de Dieu.
Oui, c'est toujours cette affaire de discernement.
Exactement. Voilà.
Monseigneur, demain, vous aurez aussi une célébration à la cathédrale, l'après-midi avant les vêpres. Hein. L'appel décisif, ils seront 34 à répondre à cet appel. Là, c'est le Seigneur qui les appelle au baptême.
Oui, alors je n'y pense même pas parce que je suis encore dans mon week-end des fiancés, c'est vrai.
Oui, mais c'est...
Donc c'est vrai, mais c'est la grande tradition, le premier dimanche de carême, nous appelons ceux qui recevront le baptême à Pâques. Ah, ils seront 34
dans toutes les cathédrales.
Seulement.
Oui, c'est ça, ils sont un peu moins nombreux que l'an dernier, encore moins qu'il y a 2-3 ans. Ouais.
Je ne suis pas sûr, parce qu'il y avait le Covid qui a un peu perturbé les chiffres, ouais. Donc l'année dernière, on avait bien une...
45,
ouais, c'est ça. Donc, mais enfin, bon, maintenant il faut travailler. Justement, la question se pose aussi de... J'ai envie de leur poser cette question. Comment est-on accueilli dans l'Église catholique? Voilà. Est-ce qu'on est accueilli? Et comment l'est-on? Ça, c'est une vraie question. Et j'ai l'impression qu'il y a encore des barrières douanières, comme dit le pape François, à l'entrée de l'Église. C'est compliqué, hein, c'est un parcours du combattant. Nous qui connaissons bien l'Église, ça a l'air simple. Mais pour quelqu'un qui est vraiment à l'extérieur, c'est certainement plus simple d'aller chez des évangélistes ou des adventistes. Ou dans l'islam, s'il y en avait beaucoup ici, vous voyez. Nous, on est encore dans cette réflexion que, voilà, c'est... Alors, je ne dis pas qu'on entre n'importe comment non plus dans l'Église. C'est un chemin qui demande une conversion profonde, mais en termes de désir, en termes de désir.
Monseigneur, justement, je vous propose votre commentaire d'évangile pour cet évangile du 18 février. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Monseigneur.
Mais voilà, tout est dit, le règne de Dieu est tout proche. Je pense que c'est... D'abord, ça n'a jamais été aussi vrai. Ça n'a jamais été aussi vrai. Que le règne de Dieu est proche. On sent que, d'abord c'est vrai objectivement, parce que le temps passe, et on est en 2023, donc c'est plus vrai qu'en 1920, c'est plus vrai qu'en 2000, et ou qu'en 1897, voilà, c'est comme ça. Mais je ne parle pas de cela, je ne parle pas d'un temps matériel, je ne parle pas du chronos, je parle du kairos, je parle de ce temps, dans sa qualité, la façon dont les temps, dans l'actualité, les événements du monde se déroulent. Il ne faut pas tout penser au chronos, ça ne nous regarde pas. Le Seigneur l'a dit à plusieurs reprises dans l'Évangile, le temps et l'heure, ça ne vous regarde pas. Ça ne peut pas regarder les autres. Non. Par contre, l'intensité émotive, l'intensité spirituelle de ce temps, la lutte entre les ténèbres et la lumière, s'intensifie dans le monde. Elle devient plus âpre, plus radicale. Et donc, voilà, le royaume de Dieu est tout proche. Et donc ce carême, et je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais dans une des homélies de carême, imaginons que c'est le dernier carême de notre vie. Et d'ailleurs pour certains de nos auditeurs, pas forcément les plus malades ou les plus anciens, c'est certainement leur dernier carême de leur vie. C'est le dernier carême. Le royaume de Dieu est tout proche au sens propre pour certains d'entre nous. Ou pas. Pour ceux qui ne se seront pas préparés. Alors, dont acte, hein, de se mettre à la disposition du Seigneur, totalement, entièrement, comme nous sommes, il ne nous demande pas une sorte de perfection, élevée, etc. Mais un acte intérieur de dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur, c'est toi que je choisis. Voilà, donc le royaume de Dieu est proche, préparons-nous.
Amen. Merci Monseigneur David.
Merci Michel, il y a un auditeur qui a rouspété en disant, oui, que j'ai oublié, c'est David. David Ducrot qui dit « Oui, Monseigneur, tu as oublié de dire que la communauté Mère du Divin Amour faisait partie des intervenants. » C'est vrai, je le dis, qu'on a parlé des
ah
autres.
Au millénium,
mais aussi au millénium en particulier, au palais des sports un petit peu. Évidemment. Aussi. Voilà. Merci Seigneur, bienvenue à tous.
Merci Monseigneur.
Il y avait de très belles choses dans ces rencontres.
Rendons grâce à Dieu.
Je sens que cette église commence à mûrir et on a reçu des prophéties que nous allons être des témoins au-delà de la Martinique. Donc je veux que nous continuions ce travail parce que le Seigneur nous attend. Il nous a lancé une sorte un appel en tout cas. J'allais dire un défi, mais un appel en disant Martiniquais, j'ai besoin de vous pour évangéliser le monde. Donc voilà.
Amen.
Le royaume de Dieu est proche. Convertissons-nous.
Amen. Merci Monseigneur. À la semaine prochaine.
Mes auditeurs auditrices, vous venez d'entendre le mot de l'évêque avec notre archevêque, Monseigneur David Macaire. Restez en notre compagnie dans quelques instants, la suite de nos programmes.